Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec ce soir deux invités, Marlène Coulon-Gulli, professeure émérite à l'université de Toulouse Jean Jaurès et qui vient de publier « Sexisme sur la voie publique » aux éditions de l'Aube. Avec nous également Julia Mouzon, fondatrice du réseau élulocal.fr, ancienne membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Julia Mouzon, sélectionnée par la Fondation Obama en 2020 pour faire partie du programme Leader Europe. Ensemble, nous verrons que si la place des femmes dans le discours politique s'est bien amélioré, eh bien, leur éloquence est toujours jugée à partir de critères masculins, des critères très anciens. La parité en politique et l'égalité homme-femme, c'est au cœur du projet du nouveau gouvernement. Et pourtant, beaucoup de femmes élues dénoncent les violences qu'elles subissent. Et l'actualité cette semaine est venue nous le rappeler brutalement. Insultes, gestes déplacés, propos humiliants. Les femmes, mères notamment, veulent en finir avec le sexisme. On verra que la partie n'est pas gagnée.
J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler?
Vous ne me parlez pas comme ça.
Je parle comme je veux, ma
cocotte. Non. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois maîtresse, je vous demande de sortir du conseil municipal.
Conseil municipal de Paimpol dans les Côtes d'Armor le mois dernier. On entendra cet échange entre la maire Fanny Chappé et l'ancien maire Jean-Yves de Chaise-Martin. Également au sommaire de cette édition, préparée par Irène Ménahem et réalisée par Juliette Gou, le mix de la semaine, mis en onde par Lucie Lemarchand, on rembobine l'actualité des derniers jours en France avec une séquence politique très mouvementée. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, question autour du football. Doit-on tout accepter du foot? Et l'actualité est riche. Mbappé reste au PSG. La finale de la Ligue des Champions demain à Paris sans le PSG. Et la Coupe du Monde au Qatar dans 6 mois. N'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions. Le standard est ouvert 01 45 24 7000. Merci à nos standardistes et à notre stagiaire Magdalena Hervada pour la page web de l'émission. Merci aussi à ceux qui sont en régie, à la technique Loïc Frapsos, Louis Audebert et Arnaud Caillé. Sans oublier France Bleu Occitanie pour ses moyens techniques durant l'émission.
Frédéric Barrère. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Marlène Coulon-Gulli.
Bonsoir.
En duplex de Toulouse, donc depuis les studios de France Bleu Occitanie, en studio à Paris avec nous, Julia Mouzon. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Frédéric.
Alors ma première question, Marlène Coulon-Gulli, porte sur l'actualité politique du moment. Voilà, dans votre livre « Sexisme sur la voie publique », vous nous expliquez toutes les difficultés et les obstacles qu'ont eu les femmes et qu'elles rencontrent encore dans ce monde politique taillé pour les hommes. Est-ce que selon vous, Marlène Coulon-Gulli, la nomination d'Elisabeth Borne, première ministre, mais pas seulement, d'autres femmes importantes, puissantes, en première ligne, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et énergétique, Olivier Grégoire, porte-parole du gouvernement, Catherine Colonna, à l'Europe et au ministère des Affaires étrangères, la santé également avec Brigitte Bourguignon. Est-ce que franchement, cela montre qu'en politique, la partie est en train d'être gagnée pour les femmes ?
On ne va pas bouder notre bonheur. Non. On est tout à fait content, effectivement, de ces nominations. Plus surprenant, en revanche, est le fait que nous devions encore être surpris de ces nominations, parce qu'enfin, les femmes sont présentes dans tous les domaines de la vie publique. Elles sont même plus nombreuses que les garçons dans l'enseignement supérieur. Les lois sur la parité ont maintenant une vingtaine d'années. Et il a quand même fallu attendre 30 ans. Depuis la nomination d'Edith Cresson au poste de Premier ministre, pour retrouver une femme Première ministre. Donc voilà, on ne boude pas notre plaisir, mais présenter la nomination de Madame Borne comme quelque chose absolument exceptionnel ne devrait pas l'être.
Julien Mouzon, cette équipe gouvernementale très féminine avec des postes importants. Les femmes sont en train de gagner la partie pour vous aussi?
Alors, les femmes peut-être, mais les droits des femmes pas encore. En fait, on est en France dans une situation très schizophrénique où on est l'un des pays au monde les plus avancés pour la place des femmes en politique. 40% de nos élus locaux sont des élus locales. 50% de nos conseillers régionaux et départementaux sont des femmes. Nous avons une loi unique au monde, celle du scrutin binominal pour les conseils départementaux. Des avancées très récentes qui ont été très rapides. Et pour autant, les femmes qui entrent dans la vie politique française, les femmes victimes, ne sont pas protégées. Leur parole est discréditée, disqualifiée, non écoutée, non entendue. Et puis, elles sont mises au ban de leur parti politique, de leur famille politique ou de leurs instances locales dès lors qu'elles prennent la parole pour témoigner des agissements dont elles sont les victimes. Donc on est dans une situation qui est très paradoxale, très schizophrénique, qui doit encore beaucoup avancer.
Alors Marlène Colongulli, on vient d'entendre avec vous, avec Julia Mouzon, il y a encore beaucoup d'obstacles. Et vous nous dites que les principales critiques pour les femmes en politique, lorsqu'on veut faire sa place, eh bien les principales critiques portent d'abord sur la voix, avant l'éloquence.
La voix est effectivement une espèce de détonateur et les femmes politiques sont souvent critiquées à partir du moment où elles prennent la parole. À l'Assemblée nationale, ce n'est pas la présence des femmes politiques qui pose problème. On aime bien en fait avoir des femmes en politique, et d'ailleurs toutes le disent. En revanche, il suffit qu'elles prennent la parole pour que s'expriment des injures sexistes. Et effectivement, la prise de parole et de façon singulière la voix, ce qui est quand même au cœur de l'incarnation des femmes, suscite des réactions extrêmement violentes. Elles se font traiter d'hystériques, on dit de leur voix qu'elle est trop aiguë ou au contraire qu'elle est inaudible, toujours trop ou trop peu, comme si en fait les femmes étaient toujours de trop dans cet espace. Donc effectivement, l'espace de la parole est révélateur de cette difficulté qu'ont encore aujourd'hui les hommes à accepter la présence des femmes en politique, comme si la parole, qui a été construite d'ailleurs comme un privilège masculin, était impossible pour ceux-ci à partager.
Oui, et ça vient de très loin, Marlène Colongulli, dans notre culture occidentale. Vous citez l'Odyssée d'Homère dans votre livre, et déjà Télémaque, ce petit morveux de Télémaque, vous dans une citation, dites-vous, ordonne à sa mère Pénélope de se taire, le chef à la maison, c'est moi. Il y a aussi la Révolution française, où l'éloquence en politique, c'est pour les hommes, Danton, Mirabeau, de grands orateurs. En fait, le monde politique s'est construit sans les femmes, ou en dehors des femmes.
Il s'est même construit contre les femmes. Donc effectivement, on a toutes les bases, tous les basiques de l'univers politique qui ont été construits par et pour les hommes et sur la base de l'exclusion des femmes. Alors, on peut distinguer la question de la parole, hein, qui est à la fois spécifique et révélatrice de cette exclusion des femmes. Vous citiez l'Odyssée, l'Antiquité avec Télémaque, on peut citer les Métamorphoses d'Ovide, où la prêtresse Io est échangée en vache par Jupiter, écho dépouillé de sa voix pour ne plus répéter que les propos des autres. On peut aussi citer tous les codes de la bienséance bourgeoise, hein, qui se sont évertués à intimer aux femmes le silence. Et en politique, enfin le monde politique n'est évidemment pas dissociable de cette très longue histoire de l'exclusion des femmes de la parole publique. Et en politique, notre imaginaire se fonde sur une éloquence qui est devenue le synonyme d'une forme de virilité, hein, une voix forte, une voix de stentor. Vous citiez Mirabeau, Danton et d'autres, une gestuelle ample. Et voilà tout cet ethos énonciatif, toute cette corporéité qui renvoie à une virilité à laquelle, évidemment, les femmes ont beaucoup de difficultés à s'identifier et ne doivent peut-être pas non plus s'identifier. J'imagine qu'on aura l'occasion d'évoquer le cas de Valérie Pécresse. Donc, effectivement, politique s'est construit sur le base d'une exclusion des femmes de la parole publique en particulier.
Et pour appuyer ce que vous dites, il n'y a pas de féminin à ténor ni à tribun, par exemple.
Alors, il y a un féminin à tribun, mais il désigne la tribune, ce qui n'est effectivement pas tout à fait la même chose.
C'est pas le même sens, oui.
Voilà.
Alors, en politique, on aime bien l'image des femmes, mais pas le son, en quelque sorte, pour aller vite. Vous parliez de Valérie Pécresse. On va écouter un exemple de meeting extrêmement critiqué. Valérie Pécresse au Zénith, en pleine campagne pour l'élection présidentielle. C'était au mois de février dernier.
Depuis deux mois, je suis en campagne. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je traverse le plus beau pays du monde. La France, je l'aime corps et bien. Plus je la parcours, plus je l'étreins, plus elle m'émerveille. Et plus je sens monter en moi une impatience, celle de voir notre nation retrouver cette force qui appartient aux nations gagnantes. cette force, je l'ai en moi.
Marlène Coulon-Gulli, les critiques sont très dures, hein. Meeting raté, qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui, avec 3 mois de recul?
Bon, effectivement, on peut pas considérer qu'il y ait là un exercice oratoire qui soit parfaitement réussi. La diction de Valérie Pécresse est assez artificielle. Ses arrêts, ses pauses qui sont autant de ce qu'on appelle des claptraps. Donc, elle fait une pause pour que les gens puissent applaudir. Or, les gens, on l'a bien remarqué dans l'extrait que vous avez diffusé, ne se précipitent pas pour applaudir, d'où une espèce de malaise. Et puis cette voix qui est posée un peu à côté de la façon dont elle parle en général. Donc on sent bien à travers ce discours qu'elle s'efforce de finalement de s'adapter à des modèles qui ne correspondent pas exactement à la façon dont elle a l'habitude de prendre la parole. Et c'est d'autant plus étonnant que Valérie Pécresse, parmi les femmes politiques, est probablement une des celles qui est le plus familière avec cette problématique. Elle a beaucoup écrit sur la question de la voix, sur la question du leadership par la voix, sur la nécessité de s'imposer par la voix.
Elle a été porte-parole du gouvernement en 2011.
Absolument. Elle a été porte-parole du gouvernement. Elle est aussi, hein, il faut le rappeler, quand même présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Donc elle a une véritable expérience là-dessus. Et elle s'est trouvée là, au cours de ce meeting, prise, je crois, dans des injonctions contradictoires, c'est-à-dire prendre la parole, mais prendre la parole comme un homme.
Alors, encore un exemple, Marlène Coulon-Gulli, le discours cette fois de politique générale d'Edith Cresson, première ministre à l'Assemblée. Nous sommes en mai 1991, on écoute.
Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Mon action passée est là pour le démontrer, s'il en était encore besoin. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est.
Alors là, Marlène Coulon-Gulli, là, ce qu'on reproche à Edith Cresson, c'est sa voix de poissonnière.
Rien que ça. Effectivement, voix de poissonnière, donc on voit bien à travers cette insulte, car c'en est une, que se mêlent à la fois des considérations sur la matérialité vocale, hein, de la voix d'Edith Cresson, mais aussi des insultes qui relèvent de l'injonction sociale. Disons, elle serait vulgaire. Elle ne serait pas au niveau. Donc se mêlent ces deux types d'insultes. Bon, Edith Cresson a traversé son mandat primo-ministériel. Enfin, ça a été une descente aux enfers absolument épouvantable. Et ça s'est cristallisé dès le discours de politique générale. Alors on entend un peu, hein, dans l'extrait que vous avez diffusé, le brouhaha, le chahut qui a accueilli son discours. Et effectivement, elle a eu beaucoup de mal à imposer le silence. Et au sein de l'Assemblée nationale, du Parlement, l'attitude des hommes, c'était pour l'essentiel des hommes, était absolument invraisemblable. Ils se levaient, ils allaient d'une travée à l'autre, ils avaient les pieds sur la table, ils lisaient le journal, bref, tout était fait pour montrer qu'elle n'avait pas l'autorité, la légitimité nécessaire pour s'adresser à eux. À tel point que ce discours d'Edith Cresson a donné lieu à une expression, et on parle depuis, lorsque quelqu'un a du mal à s'imposer, du fait d'être en voie de cressonisation.
Et je rappelle les titres, hein, de la presse, on parlait de l'Assemblée nationale, les titres de la presse en 91, c'est « Dieu nomma la femme, la touchard, mais et Matignon », comme vous le rappelez également.
Tout à fait. Donc on est là dans une... Enfin, je pense que ça ne serait plus possible aujourd'hui, heureusement. Oui. Mais on était là dans une... dans une bipartition qui faisait bien sûr de Mitterrand le maître et d'Edith Cresson la maîtresse, à tous les sens du terme. Et on se souvient aussi de peut-être du Bébé de Chaud, cette émission extraordinairement populaire qui a été diffusée tous les jours sur TF1 et où on présentait François Mitterrand comme Dieu. Pierre Mitterrand, Dieu, et Edith Cresson comme une panthère en chaleur qui se lovait à ses pieds et dans laquelle il donnait des coups de pied en la renvoyant à la cuisine, en lui disant d'aller s'occuper de voilà, de la cuisine. Donc on vraiment
de retourner se cristallise à sa place, quoi. De
voilà, c'est ça. On se cristallise à ce moment-là une espèce de couple qu'Édith Cresson dont Édith Cresson n'a absolument pas pu sortir tant le disons cette imposition était forte.
Et là,
y compris sera... d'ailleurs oui. Pardon, y compris dans des journaux comme Le Monde, hein, où on parlait effectivement du charme d'Édith Cresson comme la favorite. Donc, ça n'était pas réservé à des titres qu'on pourrait considérer comme étant people. Là, même la grande presse emboîtait le pas à ce type de désignation.
Et elle restera un peu plus de 10 mois comme première ministre. Marlène Coulonguilly, on se retrouve dans un instant avec Julia Mouzon. On continuera à parler, bien sûr, du sexisme et des violences subies par les femmes en politique et de la libération de la parole des femmes. Retour maintenant sur l'actualité de la semaine. On rembobine un peu ce qui s'est passé cette semaine en France et une semaine politique mouvementée. Premier conseil des ministres et première tempête pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Damien Abad, ministre des Solidarités, est accusé de viol par 2 femmes.
J'ai porté plainte au commissariat 1 an après, mais j'ai pas réussi à signer et aller jusqu'au bout. Mais 6 ans plus tard, j'ai réussi à le faire. C'est parce que Damien Abad était omniprésent dans les médias et que je pouvais plus supporter juste de le voir, d'en souffrir et que lui ne soit inquiété en rien.
Damien Abad rejette avec force ces accusations.
Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie.
L'affaire devient politique. Jean-Luc Mélenchon notamment demande son départ du gouvernement.
Nous avons décidé que, quoi qu'il en soit, nous croyons la parole des femmes. Dans ce cadre précis, il n'y a plus de présomption d'innocence. Et c'est pas rien. C'est un choix qui consiste à ce que la peur change de camp. Si le gouvernement décide que M. Abad doit rester membre du gouvernement, je suppose qu'il faudra qu'il explique pourquoi.
Premier conseil des ministres donc, et rappel des priorités par la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.
L'éducation, la santé, l'écologie, mais aussi d'ores et déjà une urgence que vous connaissez, le pouvoir d'achat, avec un premier projet de loi qui devrait être adopté en conseil des ministres.
Et les prix flambent dans l'alimentation. Les cantines scolaires seront sans doute plus chères à la rentrée.
On a des références qui ont même doublé. Le cabillaud, par exemple, un poisson que les enfants aiment bien. Au kilo, il est passé de 7 euros à 13 euros. On va prendre une autre race, une autre variété. Du hoki, du colin.
Une menace pèse à l'approche des vacances. Le manque de saisonniers et de personnel, le secteur de la restauration s'inquiète.
On faisait traiteur, ouais, on faisait les mariages, tout ça, mais là, non, on a arrêté. Parce qu'on voyait bien qu'on avait du mal à trouver des équipes, et là, c'est plus la peine. On a toujours des demandes pour les mariages, les repas d'association, mais on a fait un choix.
Autre gros nuage à venir, la réforme des retraites. Le projet semble avoir été mis en attente, mais les syndicats sont prêts, clairs et nets. Philippe Martinez de la CGT.
Négocier le report de l'âge légal, c'est non. C'est suffisamment rare, et je vous l'ai dit, que quand on prétend écouter, entendre, se concerter, que tous les syndicats, tous, sont contre la retraite à 65 ans, ça devrait déboucher les oreilles du président de la République.
Et la météo s'en mêle, orage de grêle terrible dans l'Indre à Châteauroux.
23h30, un orage pas possible, des grêlons comme des missiles, 200-300 grammes le grêlon, balle de tennis quoi. Et ça fait des dégâts, toiture, mobilier de jardin, ça c'est même plus la peine, il n'y a plus rien. Et les voitures, cabossées de partout, sinistre total.
On ne reverra plus Joe Wilfried Tsonga sur un court de tennis, c'était son dernier Roland-Garros.
Je suis maintenant là devant vous, sans ma raquette, qui aura été ma meilleure amie pendant 30 ans. Et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis, je t'aime.
Et lui, tout le monde l'aime, c'est peut-être moins vrai à Madrid. Kylian Mbappé reste au PSG. Kylian Mbappé SG.
En tant que Français, mon importance que je sais dans le pays, c'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée. Et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici.
Le mix de la semaine, mis en onde par Lucie et Le Marchand. Une semaine en France, en compagnie de Marlène Coulonguilly et Julia Mouzon. Marlène Coulonguilly, une réaction peut-être à ce que l'on vient d'entendre.
Juste un petit point, effectivement, concernant le sport, Il y avait deux citations, l'une de Tsonga, l'autre de Mbappé.
Oui.
Et je suis totalement inculte sur le plan sportif, mais je me disais que je serais sans doute capable de citer un certain nombre de joueurs de foot, peut-être de joueurs de tennis, et qu'en revanche, j'aurais beaucoup plus de mal à citer le nom de joueuses de foot. Et le sport est probablement... Avec la politique, mais plus encore que la politique, un des lieux où s'exprime le plus difficilement la parité entre les femmes et les hommes. Et c'est bien dommage, parce que c'est évidemment une activité qui fait rêver.
Diane Paris, la joueuse de 19 ans française qui est en train d'en découdre à Roland-Garros sur le central, je crois. Julia Mouzon, une réaction à ce que l'on vient d'entendre également dans le mix de la semaine. Qu'est-ce que vous retenez?
Oui, on entend en fait encore ce décalage entre une annonce, une grande cause du quinquennat sur l'égalité femmes-hommes, et des situations, des contextes où des ministres sont mis en cause dans des affaires d'abus de faiblesse ou de viol. On peut penser à des situations moins graves qui ont entraîné des démissions. Je pense à celle d'Hervé Guémard en 2010, de Thomas Thévenoud en 2014, de François de Rugy. On est aujourd'hui dans une situation où les faits qui sont évoqués sont très graves, où ils sont en contradiction assez manifeste avec l'objectif affiché du président de la République de faire donc de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat, et où ces deux contradictions amènent à un problème qui est la crédibilité et la confiance que les citoyens peuvent avoir aujourd'hui dans la vie politique. Ces contradictions et cette situation-là, en fait, elle apporte beaucoup de discrédit à la vie politique.
Ouais.
Elle discrédite la parole politique, elle discrédite les engagements de la classe politique envers les citoyens.
On va y revenir à travers des extraits sonores qu'on va entendre tout à l'heure, mais cette libération de la parole des femmes, Julia Mouzon, aujourd'hui, après MeToo et avec les réseaux sociaux, ça nous paraît normal, ça nous paraît presque comme une évidence, mais quand vous créez le réseau élulocal.fr, c'était il y a 10 ans, quels sont les événements qui vous motivent à ce moment-là? Parce qu'on est loin de MeToo encore.
On est très loin de MeToo à l'époque, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, ce dont on entend parler aujourd'hui, représente sans doute 1% de ce que vivent vraiment les femmes en politique. On a 35 000 communes en France, un conseil municipal toutes les 6 semaines, donc dans l'intervalle de ces 6 semaines et dans les sans doute 34 000 communes dans lesquelles le conseil municipal n'est pas filmé, il se passe beaucoup de choses. Effectivement, moi, ce qui m'a amené à créer Élu Local, donc il y a une dizaine d'années, c'est le constat très, très simple que j'ai fait quand je commençais ma vie professionnelle, du fait que je commençais moi-même à être confrontée à des situations où je voyais mes collègues quitter les politiques publiques. En l'occurrence, je travaillais au ministère des Finances, quitter cet endroit où on crée les politiques publiques parce qu'elle commençait à avoir des enfants, et elle venait me voir dans mon bureau en me disant « Tu comprends, je pars tous les soirs à 18h et personne ne m'en fait le reproche, mais je me sens quand même assez seule, et à l'inverse, quand j'arrive à 8h du matin, personne n'est là et personne ne le voit. » C'est vraiment cette similarité des expériences qui m'a amenée à me dire « Si elles le font, je le ferai aussi. » Et à l'inverse, dans la vie politique, en 2012, on voyait des femmes comme Nathalie Kosciusko-Morizet, Cécile Duflot, qui était très seule, qui était très critiquée, Ségolène Royal également, des femmes qui se sont frottées vraiment à des enjeux et des défis politiques très conséquents, qui ont été isolées dans leur parti politique, lâchées par leur parti politique, et qui, pour beaucoup, ont fini par quitter la vie politique. Et mon objectif, ça a vraiment été de permettre aux femmes élues de se regrouper, de se réunir, de partager leur expérience, pour casser cette solitude de l'élu local, et en particulier de la femme élue locale, de leur permettre de prendre conscience du sens collectif, du problème collectif auquel elles étaient confrontées, et leur donner la force et l'énergie de rester dans la vie politique et d'aller prendre la parole dans la vie politique.
Alors, il y a une étude aussi qui est très intéressante que vous avez publiée à la fin de l'année dernière, avant les élections présidentielles et législatives qui vont avoir lieu le mois prochain. Donc, c'est un questionnaire, et il en ressort que 3 élus sur 4 ont été confrontés à des remarques ou des comportements sexistes, c'est-à-dire 74% des élus que vous avez interrogés, c'est énorme.
Exactement, 3/4 des élus. Donc nous avons mené cette enquête, nous avons 1000 femmes élues qui ont répondu, menée auprès des élus de notre réseau, qui est présent dans quasiment tous les départements. Effectivement, 3/4 des élus interrogés, donc, qui déclarent avoir subi du sexisme en politique, à 80% de la part d'autres collègues élus, et dans 3/4 des situations sur le lieu où elles exercent leur mandat local. Cette enquête, elle vient étayer avec des chiffres les témoignages qu'on entend au niveau national. national, mais qui se révèle ainsi au niveau local, sur le fait que la violence en politique, et notamment le sexisme en politique, est encore omniprésent dans cette vie politique, avec là encore des contradictions, des dispositifs qui sont mis en place. Les élus, les femmes élues peuvent porter plainte, peuvent le signaler, peuvent contacter leur parti politique, etc. Et une réalité qui diverge de ces recours théorique possible, puisque en fait, quand une femme élue va porter plainte, il arrive que le gendarme ou le policier en face duquel elle s'assoit loue un terrain au maire qui est coupable des agissements qu'elle est en train de dénoncer, et donc va peut-être ne pas enregistrer sa plainte, refuser de la prendre, en tout cas invalider, empêcher d'une manière ou d'une autre ces dénonciations, ouais. Et la parole, effectivement, dont parlait Marlène Coulon-Gully il y a quelques instants.
Alors, Julien Mouzon, un exemple de ces violences, on l'entendait en début d'émission, Paimpol, les Côtes d'Armor. Conseil municipal du 26 avril dernier, l'ancien maire de Paimpol, Jean-Yves de Chaise-Martin, s'en prend à la maire actuelle, Fanny Chappé.
J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler?
Franchement, monsieur de Chaise-Martin, vous ne me parlez pas comme ça.
Je parle comme je veux, ma
cocotte. Non. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois maîtresse, je vous demande de sortir du conseil municipal. Je suis madame la maire.
Hein, pardon?
Vous m'appelez encore une fois maîtresse, vous sortez. Vraiment, vous sortez. Je suis la maire, je mérite le respect.
Pas de me couper la parole.
Vous n'avez pas à me parler comme ça. Donc, soit c'est madame la maire, soit vous sortez du conseil municipal. Je suis très sérieuse. Donc, si vous me demandez la parole, vous me demandez respectueusement.
Est-ce que c'était donc une question pour
je
moi?
Je vous donne la parole si vous me demandez respectueusement.
Ce que je fais depuis tout à l'heure, Fanny, et que tu me la coupes Fanny, beaucoup moins respectueusement.
Fanny, ça passe. Encore une seule fois, maîtresse, je vous assure que vous sortez.
Alors là, la tension est quand même immense.
Je pense que vous vivez un grand moment de solitude parce que là, vous riez seul. Là, vous riez seul. Je vous donne la parole, vous ne me manquez plus de respect.
Voilà, là nous sommes à l'échange local, hein, dans une mairie. C'est quoi, Julien Mouzon? C'est une certaine classe politique qui ne veut pas admettre que des femmes plus jeunes, parfois, on parle de cette génération climat, notamment peut-être à Boulogne, s'intéressent et s'impliquent dans la vie de leur commune et leur prennent leur place.
Je pense que c'est plus largement une culture de déficit de respect social envers les femmes qui existe en politique comme elle existe dans la rue, qui là encore discrédite la parole des femmes, leur manque de respect, les interrompt, coupent leur micro quand elles prennent la parole. On l'a vu au conseil municipal de Boulogne-Billancourt comme au
récemment aussi, hein.
Régional des Hauts-de-France. Exactement. Donc des situations dans lesquelles les femmes élues doivent en fait batailler pour obtenir quelque chose qui devrait être une denrée de base dans notre démocratie, le respect.
Alors il arrive que des femmes aussi soient rabaissées au point d'être ramenées à une condition de potiche ou de cocotte. On l'a vu à l'Assemblée nationale en 2013, lorsque Véronique Massonneau, députée écologiste, prend le micro. Il y a un groupe de députés de droite qui imite des cris de basse-cour. On écoute.
J'ai bien entendu, Madame la Ministre, que l'accroissement de l'espérance de vie est une chance pour la France. Je ne le nie pas. Mais il est nécessaire de voir au-delà de ce critère l'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui s'est fait
Écoutez,
ça
enfin, franchement,
arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon.
Il y a des comportements incroyables.
La durée moyenne de cotisation est de 35 ans pour les femmes et 37 ans pour les hommes. Les projections retenues pour la mise en place de ces dispositifs me semblent en outre quelque peu optimistes. Pour toutes ces raisons, les écologistes sont défavorables à cette mesure et nous demandons sa suppression. Merci.
Merci. Mes chers collègues, avant de poursuivre les travaux, moi je veux bien que les uns et les autres aient des idées à défendre. Mais que l'on se transforme en cours de récréation, non. Donc je vous le dis, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Donc je vous propose une minute de suspension pour que chacun puisse retrouver son calme.
Voilà, et c'est Claude Bartolone qui préside la séance qu'on vient de voir. Là, on est dans l'injure sexiste, hein, déclenchée par la prise de parole, Julien Mouzon, et forcément ça peut être très décourageant si on n'est pas épaulé et aidé.
Absolument. J'irai même plus loin. Je dirais que la violence en politique a un coût énorme pour toute la société. Il faut voir l'énergie que ces femmes engagées, brillante, compétente, passe à se défendre contre ces agissements. Et de façon plus générale, la violence en politique éloigne les citoyens de la vie politique. Qui aujourd'hui a envie de commencer une vie politique locale, par exemple, quand on voit des élus qui sont agressés, harcelés sur les réseaux sociaux? Les citoyens sont témoins de cette violence. Et donc, elle les décourage de se lancer, d'entrer dans la vie politique. Donc ça, c'est un coût énorme pour la société. Et j'ajouterais même que l'impunité discrédite nos institutions, à savoir qu'à partir du moment où on a des institutions, c'est arrivé à l'Assemblée nationale, avec le cas de Benoît Simian, par exemple, des institutions qui ne lèvent pas l'impunité des parlementaires, des institutions, encore une fois, qui dissocient les paroles et les actes, on est dans un système où les citoyens perdent confiance dans nos institutions démocratiques.
Marlène Coulonguilly, je voudrais vous entendre sur cet extrait à l'Assemblée nationale de Véronique Massonneau. Là, c'est la prise de parole, encore une fois, qui déclenche
l'injure.
L'injure, oui. L'injure sexiste.
Là, absolument. Ce sont des cris de basse-cour. On pourrait aussi ajouter qu'Alice Toureau, sur le projet de loi de moralisation de la vie publique, a été accueillie par des bêlements de chèvres. On se rappelle Christiane Taubira, traité de guenon, etc. Donc, il s'agit toujours, finalement, de ramener les femmes à une condition infra-humaine. Hein, les ramener à de l'animal, leur dénier, finalement, toute humanité. Et je partage complètement le constat de Julia Mouzon. Hein, c'est d'une violence absolument extrême. Comment travailler, comment agir en politique quand on s'oppose à vous de façon aussi, quand on vous renvoie de façon aussi humiliante à des formes d'injures de ce genre. Donc il faut absolument mettre en place des formes de solidarité entre les femmes et on regrette que lorsqu'ont eu lieu ces événements, toutes les femmes de l'Assemblée ne soient pas levées et n'aient pas quitté l'hémicycle. Il me semble qu'il y a là une sororité à construire qui permettrait aux femmes d'être plus présentes en politique.
Marlène Coulonguilly, Julia Mouzon, on se retrouve dans un instant après M.
Je passe dans ta radio, si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio. Tu scannes les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances.
Dans les
dans ta radio. M. Mathieu Chédid, choix musical signé Joubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Une semaine en France avec Marlène Coulon-Gulli et Julia Mouzon. Alors, il y a un rendez-vous important bientôt pour Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. C'est le discours de politique générale. On l'a entendu tout à l'heure, Edith Cresson, pour son discours de politique générale en mai 91. Et ce qu'on n'a pas entendu, c'est que Laurent Fabius, le président de l'Assemblée, lui disait « Madame le Premier ministre ». Voilà, donc là justement, c'est pour vous faire écouter un extrait qui a, je pense, déclencher une prise de conscience. Nous sommes en 2014. Sandrine Mazetier préside la séance à l'Assemblée et elle rappelle à l'ordre le député du Vaucluse, Julien Aubert. On écoute.
Le 129, monsieur Aubert.
Merci, madame. J'en profite en introduction puisque vous m'avez...
Non, madame, ça va pas non plus.
Vous m'avez menacé.
Non. Alors... Attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance... Soit il y a un problème.
Mais je respecte.
Donc c'est madame la présidente.
J'utilise les termes de l'Académie française.
Rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal.
Faites un rappel à l'ordre, madame le président.
Avec inscription au procès verbal, vous aurez été prévenu.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi j'applique les règles de l'Académie française qui veulent que la madame la présidente, c'est la femme du président.
Et non,
madame
mais le règlement de l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée nationale.
Mais si vous montrez que dans le règlement de l'Assemblée,
on féminise... Avec inscription au procès verbal, un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Voilà, et si vous voulez, ça peut aller plus loin.
Voilà, Assemblée nationale, octobre 2014. Julia Mouzon, je vous vois... faire les grimaces, tordre le nez.
Oui, ce qui est intéressant par rapport au sujet de la voix des femmes en politique, c'est qu'on voit que les hommes en politique sont assez forts pour prendre la parole et pour occuper le temps de parole et l'espace, en l'occurrence public, de la parole publique, sur des choses qui sont quand même très mineures. Pourquoi faire de Madame la Présidente un sujet ? Si ce n'est pour briller, pour obtenir une vidéo sur le site de l'Assemblée, pour obtenir un temps de parole supplémentaire. Et c'est aussi le cas d'ailleurs je rebondis sur l'échelon local, mais c'est aussi le cas dans les communes, dans les intercommunalités, dans lesquelles les temps de parole des femmes sont dans la pratique très réduits par rapport à ceux des hommes, à peu près 80%, 20%. Les hommes parlent pendant 80% de ces séances publiques, de conseils municipaux, de bureaux intercommunautaires, et les femmes pendant 20% du temps.
Alors, Julien Mouzon, je poserai ensuite la question à Marlène Coulon-Gulli. Comment faire pour que cela change ?
L'élément qui me paraît très important, c'est cette question de la confiance. Aujourd'hui, on est dans un dispositif, dans un système où on a des lois très ambitieuses et en même temps une impunité, cette différence entre les paroles et les actes qui détruit nos institutions, qui détruit notre démocratie parce qu'elle détruit ce qu'on a de plus important, la confiance. La confiance que les citoyens peuvent avoir dans la parole publique et dans l'exécution, dans la réalisation de la parole donnée. Donc pour moi, le plus important, c'est de reconstruire cette confiance à chaque échelon de la vie politique. D'abord, la confiance des femmes dans leur père et dans leurs institutions. Les femmes entre elles se parlent, les femmes entre elles, ce lien de confiance existe dans les cercles de femmes. Nous, c'est ce qu'on voit, ce qu'on anime dans nos réseaux locaux, puisqu'on a une cinquantaine de réseaux locaux de femmes élues dans tout le territoire. Nous avons des dénonciations qui remontent dans ces réseaux, des témoignages, des agissements qui sont partagés par les femmes. Cette première étape, ça leur permet de prendre conscience donc que ces difficultés ne sont pas individuelles mais collectives, qu'elles sont symptomatiques d'un problème culturel, qui est ce manque de respect, et ensuite, quand c'est nécessaire, de porter cette parole à l'échelon supérieur. L'échelon supérieur, on souhaiterait qu'il existe et qu'il soit réellement efficace. Aujourd'hui, encore une fois, aller porter plainte dans un écosystème très petit parfois, d'un village, d'un environnement, d'un parti politique, c'est très difficile pour les femmes. Donc nous souhaiterions la mise en place de cellules d'écoute et d'alerte dans les préfectures et dans les partis politiques dans lesquels ça n'existe pas encore, pour que les femmes qui dénoncent ces agissements puissent être très vite protégées de leurs agresseurs, qui sinon, on le voit, continuent leur vie politique en toute tranquillité. On a quand même aujourd'hui des maires qui sont condamnés pour agression sexuelle, qui peuvent rester dans la vie politique, qui ne sont pas soumis à des peines d'inéligibilité. Et ça, c'est très problématique, pour encore une fois, pour cette confiance dans la politique de nos concitoyens.
Marlène Coulon-Gulli à Toulouse, comment faire pour que ça change ? Même question, est-ce que la honte commence à changer de camp ou pas ?
Alors la honte certainement change de camp et puis j'abonde complètement dans les propos qui viennent d'être énoncés, mais j'ajouterais que le sexisme en politique ne fait jamais que renvoyer ou qu'accentuer le sexisme systémique qui caractérise notre société et que le travail là, il est de grande ampleur et qu'il convient absolument de promouvoir une culture de l'égalité et que ça commence dès la petite enfance, dès l'éducation, et on ne dira jamais assez combien les ABCD de l'égalité qu'on avait tenté de mettre en place sous le gouvernement de François Hollande nous manquent aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut absolument travailler dès la petite enfance, dès la maternelle, dès l'école primaire, et que ça passe aussi par une formation des maîtres à ces questions de respect de l'autre. Et je rappelle toujours que en Suède, la parité en politique est arrivée sans qu'aucune loi ait jamais été votée. Donc voilà, travailler sur promouvoir cette culture de l'égalité dès la petite enfance.
Julien Mouzon.
Et je voudrais souligner le rôle primordial qu'a le dirigeant dans ces cas-là. On voit que dans les entreprises, dès qu'un dirigeant prend des actions systématiques, souhaite éradiquer le sexisme, les choses avancent, les choses se décantent, les témoignages émergent. Donc on a cette vraie nécessité du courage en politique, d'avoir une République exemplaire. On a des femmes aujourd'hui au gouvernement qui ont été nommées, qui vont devoir faire jouer, esquiver ces nominations problématiques qui vont, d'une certaine façon quand même, nuire à leur action. Je pense à notre nouvelle ministre des Droits des Femmes qui se retrouve dans une situation qui n'est pas forcément évidente. Encore une fois, si on souhaite que les choses avancent, on a besoin d'une décision qui soit prise tout en haut de la pyramide pour que de façon très claire, on puisse lutter ensemble contre le sexisme en politique.
Cette violence en politique dont on a vu plusieurs exemples dont on vient de parler, c'est bien sûr un problème majeur. Vous disiez qu'il y a une crise de confiance, mais est-ce que c'est aussi une crise de confiance plus large pour notre démocratie quand on voit comment ça se passe dans les conseils municipaux, lorsqu'on coupe un micro, comment on parle aux gens, est-ce que les électeurs se disent mais c'est ça, c'est quoi cette politique-là, quel triste exemple pour la démocratie? Le phénomène de l'abstention peut-être aussi.
On a deux problématiques en fait. On a la problématique de la violence et on a la problématique de l'impunité. Les deux doivent être traités séparément. Le problème de la violence, alors j'espère qu'il va être résolu, mais on a effectivement besoin d'avancer là-dessus, de montrer des modèles, de montrer ce que c'est qu'une vie politique respectueuse, parce qu'il y a aussi beaucoup de communes dans lesquelles la vie politique se passe très bien, avec des élus qui s'impliquent énormément. Le mandat politique local, c'est un deux temps plein. Donc on a des élus qui s'engagent énormément. Il faut saluer cette implication. Donc il y a le problème de la violence qu'il faut adresser, comme dans toutes les autres sphères de la société, hein, de la médiation, de la pédagogie, etc., en prévention. Et puis on a ce problème d'impunité. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, je le souligne, quelque chose qui détruit la confiance de nos concitoyens dans la démocratie. Comment peut-on s'engager en politique quand on voit aujourd'hui l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences? Et ça c'est une vraie question, je pense, pour notre démocratie de façon beaucoup plus large, en effet.
Marlène Coulon-Gully, dernière question en 10 secondes, vraiment. Elisabeth Borne va donc présenter son discours, prononcer son discours de politique générale après législative. Et déjà, contrairement à Edith Cresson, on note une voix grave de la Première ministre.
Effectivement, elle a une voix extraordinairement grave et ce faisant, bon, elle correspond, j'allais dire, aux stéréotypes vocaux de la voix d'autorité, d'une certaine façon. Donc on va dire que sur ce plan, elle correspond effectivement à ce qu'on peut attendre d'une voix de femme en politique.
Merci,
mais j'aurais quand même juste aimé souligner l'énergie avec laquelle les femmes, que ce soit la maire de Paimpol ou que ce soit Sandrine Mazetier, ont remis en place leurs opposants. Et cette énergie-là, elle est aussi le source de notre action et de notre espoir dans une vie politique plus paritaire.
Merci beaucoup Marlène Coulon-Gully, merci Julia Mouzon. On ne se quitte pas, on se retrouve dans un instant avec le téléphone sonne après le journal de 19h.